Europe 1. Europe 1, Culture Média.
9h30, 11h.
Thomas Hill.
Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Nos deux indispensables du jour nous ont rejoints. Héloïse Goy pour les séries.
Salut Thomas,
Héloïse.
Bonjour tout le monde.
Et puis le boulotteur de Chouquette, Olivier Benkemoun.
C'est pas bien de balancer. C'est pas espèce de poucave. C'est pas très bien ça.
Salut à tous les deux. Bonjour. Alors j'ai la chance ce matin de recevoir non pas le chroniqueur, ni l'animateur, ni même le réalisateur, mais l'auteur, l'écrivain Yann Moix. Bonjour Yann.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là pour parler de votre nouveau roman qui sort aujourd'hui même. On est les premiers à en parler ce matin. Mais avant d'en parler, on va dresser votre portrait sonore, des petits sons pour mieux vous connaître. Et voici le tout premier.
Claude François, c'est de l'émotion. Claude François, c'est de la poésie. Voilà ce que c'est, Claude.
La poésie, c'est plutôt Brassens, non ?
Tu m'emmerdes avec Brassens, toi. Hein ? L'autre moustache qui ferait mes couilles avec nouilles. J'ai perdu ma couille au fond du ravin. Je peux faire ça, hein ?
Non, c'est pas au fond du jardin.
Au fond du ravin.
Du ravin, absolument.
C'est moi qui fais la photo.
Il y a 20 ans, sortait Podium, votre premier long métrage, Yann Moix, adapté de votre roman avec Poulvorde, avec Jean-Paul Roux, avec Julie Depardieu. Un film devenu absolument culte. Un succès qui vous a même un peu dépassé, paraît-il, non ?
Bon, les succès, ça dépasse toujours.
Ouais.
Heureusement, il y a les échecs. Et les échecs, par contre, c'est à soi de les dépasser.
Ah, c'est joli. En tout cas, fin 2022, vous étiez en train de préparer Podium 2, plutôt autour de la figure de Paul Naref, dont le personnage a été Jean-Paul Rouve. Vous en êtes où de ce projet ?
Ça a été abandonné, à trois semaines du tournage, oui. Mais
qu'est-ce qui s'est passé ?
In extremis, j'avais l'impression que le scénario n'était pas à la hauteur du premier. Ah. Et j'ai préféré changer mon fusil d'épaule. Donc là, je prépare un film avec Jean-Claude Van Damme.
C'est vrai? Voilà,
oui.
Qu'est-ce que vous allez faire avec Jean-Claude Van Damme?
Ah, vous allez voir.
Deux salles, deux ambiances, quand même.
Comment?
Deux salles, deux ambiances.
J'aime beaucoup Jean-Claude et je pense qu'il mérite d'avoir lui aussi un peu une grande comédie populaire.
Il y aura du karaté ou non?
Il y aura du karaté,
ah,
oui.
Ouais, très bien.
Et on verra jamais de Podium 2 alors? C'est fini, c'est enterré?
Non, jamais, peut-être pas, mais voilà, j'ai mis
mais vous avez
parenthèse.
Eu un coup de stress pour comme ça arrêter non, ça non, trois semaines
non,
avant
non,
le tournage
pas du tout. J'ai eu la chance de faire un film qui s'appelle Cinéman.
Oui.
Et j'ai senti, quand vous faites un film, en fait, y a un petit bruit de fond qui vous avertit que tout va bien ou bien que tout va mal. Et donc, au cinéma, y a une espèce d'effet boule de neige. Si tout s'enclenche merveilleusement bien, vous êtes sûr que tout le monde est sur la même longueur d'onde et le résultat est au prorata de cet élan positif.
Ouais.
En revanche, s'il y a des petits signaux qui vous alertent, vous savez que ces petits signaux vont devenir graduellement des problèmes.
Un fiasco.
Comme quand vous achetez un appartement et vous sentez un petit truc, vous dites « Ah, je vais le prendre quand même, mais c'est bizarre, il y a un truc qui me plaît pas. » Et le truc qui vous plaît pas grossit de jour en jour. Donc j'ai décidé pour l'instant de le mettre...
Ah oui, mais c'est pas enterré.
Non. Ouais, okay. Tout le boisseau, mais pas enterré définitivement.
Allez, extrait suivant. Rasmus in the Shadows, c'est la chanson de ce groupe finlandais qui est aussi le générique dont on n'est pas couché, présenté par Laurent Ruquier. Vous y avez été chroniqueur aux côtés de Léa Salamé pendant 3 ans, c'était 2015-2018, c'est vrai que ça vous a fait beaucoup connaître du grand public. Qu'est-ce que vous gardez de cette expérience avec un peu de recul maintenant ?
Que des bons souvenirs, c'est un privilège que de pouvoir avoir en face de soi un Premier ministre, un député, de lui dire ce qu'on pense de lui.
Très librement,
ouais. Avec les conséquences que ça implique, parce que dans ce genre d'émission, lorsque par exemple vous dites ce que vous pensez d'un livre, ou d'un disque, ou d'un spectacle, il y a quelque chose, je suis assez naïf, contrairement aux apparences, c'est qu'on ne sait jamais qui est ami avec qui à Paris.
Ah, oui.
Donc
aïe,
vous dites,
aïe, aïe.
En toute honnêteté, votre livre est mauvais,
ouais.
Vous attaquez pas la personne, mais il faut savoir que les gens, en France en tout cas, c'est plus grave d'attaquer une œuvre que d'attaquer un enfant. Une femme vous pardonnera de dire que ses enfants sont débiles, mais si vous dites que son fils, oui, mais si vous dites que son roman n'est pas tout à fait réussi, c'est la peine de mort.
Ouais.
Et donc vous ne savez jamais qui est ami avec qui. Et donc vous le comprenez à vos dépens quelques semaines, quelques mois, quelques années plus tard.
Et vous continuez à fréquenter Laurent Ruquier, Léa Salamé.
Léa, je la vois très peu, mais on s'envoie des messages.
Ouais.
Et Laurent, je vois très peu, mais on s'envoie des messages. Non, mais ce sont des amis, mais je fais pas partie de leur
petit cercle,
de leur cercle intime. Ouais.
Et vous continuez à dire du mal des livres?
Oui, mais que pour moi.
En privé.
En fait, de moins en moins, parce que comme je ne lis quasiment que des classiques, c'est difficile de dire du mal de Nabokov, de Victor Hugo, de Joseph Conrad.
Ouais. Allez, et encore un petit extrait. Amis, hein. Écoutez cette musique.
Je suis une femme, tous les hommes ont quitté. Souviens-toi des automnes.
Ça vous parle cette chanson ou pas? C'est Diane Tell qui chante Souviens-toi. Alors, c'est pas son plus grand succès, mais c'est vous qui l'avez écrite, cette chanson.
Oui, il m'a demandé d'écrire un chanson.
C'est la seule chanson que vous ayez écrite.
Elle date de quand, cette chanson?
Il y a longtemps. J'en avais écrite pour Ariel Dombal aussi, mais c'est très difficile d'écrire des chansons.
C'est très dur, pourquoi?
Je sais pas. C'est pas pour moi.
Votre truc.
Non.
Bon, vous, votre truc, c'est plutôt les bouquins. Et alors, celui-ci est très réussi. C'est un dialogue.
Enfin, il est épais comme une chanson.
Effectivement, il est très léger, mais nous, on adore ça parce que du coup, ça nous prend pas trop de temps. Et surtout, c'est un dialogue très enlevé dont on va parler dans un instant. Ça pourrait être du théâtre. Ce sera peut-être une pièce un jour.
Ouais.
Ce livre Visa. On en parle dans deux minutes sur Europe 1. Tout de suite.
Europe 1.
Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas, l'auteur Yann Moix, pour son dernier roman qui sort aujourd'hui, Visa.
Et qui s'appelle donc Visa, qui raconte votre entretien avec Monsieur Ri. C'est un Nord-Coréen chargé de la délivrance des visas pour la Corée du Nord. Et alors, tout l'échange se déroule dans les locaux de la délégation de la Corée du Nord à Paris. Je dis que c'est un roman parce que c'est ce qui est écrit là, à côté de Grasset. Mais est-ce qu'il n'y a pas une part de récit là-dedans? Est-ce que cette histoire est en partie vraie?
Le roman englobe le récit. Un roman, c'est un mot qui est très pratique parce que sous l'appellation de roman, vous pouvez mettre même la notice d'une machine à laver, en fait. Un roman, ça absorbe tout. Le genre roman absorbe tout ce que vous voulez. Donc c'est ce qu'il y a de plus simple.
Oui, mais vous, vous êtes vraiment passé par là, pour le coup. Vous êtes allé dans cette délégation de Corée du Nord à
Paris.
Oui,
mais là, c'est quand même burlesquisé au dernier degré.
Bien sûr, bien sûr.
C'est un roman.
Et alors, c'est un dialogue. Je disais, ça se lit comme du théâtre. Et on a l'impression d'être dans une espèce de cocotte-minute avec une joute verbale sur le fil qui est souvent très drôle, parfois inquiétante. On se demande à chaque page si l'un de vous va sortir de ses gonds, si la soupape va être retirée. Mais finalement, ça reste assez courtois.
Toujours. Il faut savoir que la délégation nord-coréenne, dans le 14e arrondissement, vous êtes en Corée du Nord. C'est-à-dire que il n'y a pas d'ambassade, parce qu'il n'y a pas de relation officielle entre la France et la Corée du Nord. La preuve, c'est que j'ai un ami qui va souvent en Corée du Nord et qui était arrêté par la police française parce qu'ils ont enquêté sur lui, ils l'ont accusé d'espionnage alors qu'il allait juste en Corée du Nord de temps en temps. Donc il n'y a vraiment pas de lien diplomatique entre la Corée du Nord et la France. Mais quand vous êtes dans les locaux, vous êtes vraiment, que ce soit la décoration, l'ambiance, les odeurs, la psychologie des gens et surtout les portraits souriants des deux grands leaders, Kim Il-sung et Kim Jong-il, le père et le fils, qui sont morts tous les deux, vous êtes vraiment en Corée du Nord. Donc la Corée du Nord, ça commence dans le 14e arrondissement. Mais véritablement, vous sonnez, vous attendez en général 10 minutes, un quart d'heure avant que quelqu'un vienne vous ouvrir. Et puis là, les dialogues, souvent irréels... commence.
Non mais vous sonnez, vous venez pas par hasard.
Ah ben non, faut prendre rendez-vous. Mmh. Ah ben non, si vous sonnez et par hasard, la personne viendra jamais vous ouvrir.
Ah
non,
oui, c'est ça.
Après avoir pris rendez-vous, bien
et
sûr.
Et vous êtes bien accueilli?
Ah, toujours très bien. Les Coréens, mais en Asie en général, les gens sont d'une extrême courtoisie.
Ouais.
Il n'y a jamais un mot au-dessus de l'autre. Sauf énervement, parfois sur un très gros malentendu. Mais vaut mieux qu'il s'énerve dans le 14e arrondissement qu'à Pyongyang.
C'est ça.
Quand quelqu'un s'énerve contre vous à Pyongyang,
c'est pas bon.
C'est pas très bon
signe. On rentre pas dans le 14e aussi.
On n'est pas sûr de revenir.
On ne revient plus jamais.
Et alors, une manière de parler aussi assez amusante. Il y a d'innombrables proverbes dits par Monsieur Ri, le préposé qui vous reçoit. Quand on fait rôtir un hibou, la chouette a la migraine. Si le paon tombe dans le puits, l'étoile tombe dans la mer. La poule ne pond pas le renard. Alors, on n'est pas toujours sûr de tout comprendre. Ce sont des créations, ces expressions?
C'est des recréations. C'est-à-dire qu'ils en ont plein des comme ça. Je m'en souvenais pas forcément de tout, donc je les ai réinventées. Mais je vais vous donner une manière de comprendre la Corée du Nord avec deux exemples. Le premier, c'est qu'un jour, j'étais à Pyongyang en voiture, et puis j'étais avec mon guide, et je vois un type sur la chaussée qui était en sang à côté de son vélo par terre. Et je dis à mon guide, Monsieur Hong, cet homme est tombé de vélo. Il dit non. Je dis, si, regardez, cet homme est tombé de vélo, personne ne vient l'aider. Nous n'avons pas les preuves, mon cher monsieur Yann, que cet homme est tombé de vélo. Qu'est-ce que je vois? Je vois un homme assis, qui saigne, à côté de son vélo. Mais vous, les Français, avec votre système hypothético-déductif permanent, vous voulez toujours établir un lien entre une cause et un effet sans que vous n'ayez la preuve de la manière dont c'est arrivé. Ça, c'est à la virgule près la phrase, je l'ai enregistrée. Vous n'avez pas les preuves. Et donc, si personne ne vient le redresser, c'est parce que personne n'a les preuves qu'il est tombé.
Mais il le pense, ce qu'il dit ?
On ne peut pas savoir. Ouais. C'est-à-dire que c'est un jeu de dupes permanent. Ils savent qu'on sait, qu'ils savent,
qu'on
sait,
qu'ils savent,
qu'on
sait.
Puis c'est surtout une toute autre manière de penser. C'est ce qu'on comprend dans votre livre.
Wow. Il faut bien comprendre une chose. Et c'est pourquoi les gens en fait parlent de la Corée du Nord comme si c'était à Chartres. Mais il faut bien comprendre qu'en Corée du Nord, c'est une dictature chimiquement pure. À savoir que les enfants, dès l'âge de 2, 3, 4 ans, sont quasiment mis dans des tubes à essai psychologiques dans lesquels on ne sécrète qu'une seule passion, un seul intérêt, un seul sacrifice permanent qui est celui voué non seulement à la mère patrie, mais aux figures de Kim Jong-il, de Kim Il-sung. Et donc à l'école, nous on a des mathématiques, de l'histoire, de la géographie. Eux, ils ont la biographie de Kim Il-sung et de Kim Jong-il qui leur sert à vie d'enseignement. J'ai rencontré à Séoul une transfuge, une femme qui s'est échappée de Corée du Nord. Elle était agrégée de toutes les matières qui existent. Elle n'avait jamais entendu parler de Shakespeare, jamais entendu parler de Mozart. Elle ne savait même pas que Kennedy avait été président des États-Unis. Par contre, elle connaissait tout de la vie de Kim Il-sung et de Kim Jong-il. Ouais.
Yann Moix, honnêtement, vous prenez des risques, vous, personnellement, en faisant un livre pareil ?
C'est un pays dans lequel on prend toujours des risques en partant. C'est un pays, il n'y a pas de lien diplomatique avec la France. Votre passeport est confisqué et votre téléphone aussi à l'entrée. Maintenant, le téléphone est autorisé, mais il n'y a pas de réseau. Et puis, une fois que vous êtes là-bas, vous êtes entre leurs mains. Rien ne vous dit qu'ils ne vont pas...
Non, mais ce livre, il va leur revenir entre les mains, non ?
C'est
ils vont
exactement comme dans une réserve animalière, un zoo... à ciel ouvert avec des fauves. C'est-à-dire que vous pouvez aller 50 fois vous caresser les fauves et un jour, vous ne savez pas pourquoi, il y en a un qui vous arrache la main alors que ça s'est toujours bien passé.
Et qu'est-ce qui vous fascine dans ce pays ?
L'ailleurs. J'aime beaucoup les dictatures, voyager dans les dictatures. J'ai pas dit les régimes parce que là aussi, il y a quelque chose qui est assez pénible. Vous allez dans un pays comme la Corée du Nord et tout de suite, oh, c'est douteux, c'est étrange. On oublie un détail, il y a une population en Corée du Nord, il y a des gens qui y vivent. C'est ça qui est intéressant.
Mais quand vous êtes là-bas, vous êtes contrôlé, vous êtes surveillé.
Oui, vous êtes cornaqué toute la journée par des guides. Vous avez en général deux guides puisqu'ils se surveillent entre eux. Ah oui. La première fois que je me suis promené dans Pyongyang, en fait, c'était dans l'hôtel. Et je dis, on peut pas aller se promener un peu, oui. Donc on prend les escaliers de l'hôtel, on monte, on descend. Je dis, qu'est-ce qu'on fait là ? Et bon, on se promène.
Ah oui, d'accord.
C'est une promenade. Il y a par exemple, à un moment donné, je dis, combien d'enfants a eu le grand leader Kim Jong-il ? Il dit, monsieur Yann, vous êtes consigné en chambre. J'avais 44 ans, hein. Ouais. Consigné en chambre.
De ne pas savoir ?
Attendez. Donc, il me met dans la chambre, tout, avec un livre de 300 pages sur la Corée du Nord, sur la République populaire démocratique de Corée. Ou la Corée, on ne dit pas Corée du Nord là-bas, c'est la Corée. Ouais. Et puis, au bout de 2 heures, il dit, c'est bon, vous avez lu le livre, donc petit interro. et ensuite, clair. Il me dit, bon, vous avez dit quelque chose de très, 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 très grave. Ici, on ne demande pas, on ne pose pas de questions sur les enfants de nos grands leaders. C'est très grave. Ils ont leur vie, nous avons la nôtre. Je dis oui, en plus, et là, pour failloter un peu, je dis oui, en plus, j'imagine que... le grand leader Kim Il-sung, c'est le père de tout le peuple coréen. Grand silence. Monsieur Yann, vous êtes consigné en chambre.
Oh,
je retourne dans la chambre. Là, je saute leur pas puni. Hein. Et puis, le matin, donc j'ai pas le droit de sortir de ma chambre, le matin, je retourne au réfectoire. Il me dit, bon, vous avez encore commis une très grave erreur. Le grand leader Kim Il-sung ne peut pas être le père de la nation coréenne, c'est la mère. C'est sa mère. Je dis, mais attendez, mais c'est un homme. Et puis vous m'avez dit hier que l'homosexualité était très mauvaise pour la santé. Il dit non, mais vous avez pas compris. Chez la mère, il y a une traçabilité par le sang. Le père, on n'est jamais sûr que c'est le père de ses propres enfants.
Où va se loger le wokisme ?
Ils sont à l'abri du wokisme, je peux vous dire.
Je tiens à préciser que je n'ai aucun lien de parenté avec Kim Jong-il. On va continuer à parler de ce livre Visa dans un instant de Yann Moix. Et puis on va retrouver Olivier Benkemoun pour notre premier indispensable du jour.
Oui, un film, un blockbuster, L'homme qui tombe à pic, faire l'adaptation.
Très bien, et puis on va jouer aussi aux trois, on revient avec
les auditeurs. Vous allez pouvoir tenter votre chance. Pour cela, c'est simple, il suffit de vous inscrire, vous envoyez MEDIAS, M-E-D-I-A-S par SMS au 739-21, 2 fois 75 centimes plus que du SMS. On vous rappelle, on joue ensemble et vous pourrez peut-être gagner aujourd'hui vos invitations pour assister au spectacle de votre choix, pièces de théâtre, concerts, spectacles d'humour. Il y a 1500 spectacles à choisir sur ticketac.com. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Culture Média sur Europe 1 jusqu'à 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas Yann Moix, pour son nouveau roman. Ça s'appelle Visa, paru chez Grasset, et ça sort aujourd'hui.
Et alors, il faut qu'on dise un mot d'un de vos voyages en 2018 où vous proposez à Gérard Depardieu de vous accompagner en Corée du Nord à l'occasion du 70e anniversaire de la création de la République populaire démocratique de Corée. Vous avez tourné des images pour un film sur la Corée, un film qu'on ne verra jamais.
Si, si, vous le verrez. Là, je suis en procès contre le producteur. Je me suis fait voler un film de 2h30. Que beaucoup de vos collègues d'Europe 1 ont vu hier. Il y a deux ans, j'ai fait des projections ici Europe 1 quand j'avais ma chronique, mon émission nocturne. Et donc le film existe, il y a des gens du monde qui l'ont vu. Le producteur, lui, prétend que le film n'a jamais existé. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un film de fiction avec Gérard Depardieu, genre Les Valseuses à Pyongyang, que ce producteur a malhonnêtement mis ce film sous le boisseau pendant des mois. J'ai essayé de le récupérer, il a jamais voulu me le rendre. Et voyant que ce serait très difficile de sortir un film de fiction en salle avec Gérard Depardieu, il a utilisé 0,01% de mon film pour le mettre dans un documentaire à charge contre Gérard Depardieu. Alors qu'il est, les images sont arrachées de leur contexte. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, et ça, je le redis à l'antenne, jamais Gérard n'a sexualisé une enfant. Dans mon film, on voit très bien une cavalière de 35 ans. Gérard la regarde, sort les horreurs qu'il sort, qui sont des horreurs, mais qui sont des horreurs dites sur une femme de 35 ans. Ça adoucit un peu quand même l'horreur par rapport à une enfant de 7 ans.
Et donc vous dites que il était dans un numéro d'acteur à ce moment-là ?
Non, c'est pas que je dis. Il faut bien comprendre comment Gérard Depardieu fonctionne. C'est quelqu'un qui est ce qu'il est, d'accord ? Pour le meilleur et pour le pire. Mais il faut bien savoir une chose. Je suis parti faire un film sans scénario. Il y a toute une école de cinéma, vous le savez très bien, mon cher Olivier, où les réalisateurs, ça va évidemment des films de Godard, In the Mood for Love, etc., qui sont faits sans scénario. On regarde au montage ce qu'on va faire. Eh bien, avec Gérard, il se passe quelque chose d'assez incroyable. Dès qu'une caméra est braquée sur lui, il s'exagère. Ce n'est plus exactement Gérard Depardieu, c'est Gérard Depardieu qui se sait dans un film. Et là, en fait, je lui donnais des consignes par rapport à des situations, mais en fait, il a improvisé toute la journée. Et sur 30 heures de rush, j'ai utilisé 2h30, parce qu'il y a des choses qu'on ne garde pas dans un film. Et mon cher Olivier... Pardon,
Thomas.
Mon cher Thomas. Non,
Olivier, c'est lui.
Oui, je sais que c'est... Mon cher Thomas, si vous entendiez parfois ce qui est coupé dans les films qu'on va voir en salle, ce qu'on coupe de ce que disent les acteurs parfois entre eux, au moment où on dit couper et les petites phrases qui s'échangent juste après couper ou avant action, tout le cinéma français tombe. C'est une hécatombe.
Et ben alors on va parler plutôt du cinéma américain ce matin avec Olivier Benkemoun, et vous nous parlez du film The Fall Guy un casting alléchant, Ryan Gosling, Emily Blunt.
Ouais, mais The Fall Guy, ça dit probablement rien à personne. Non. En revanche, L'homme qui tombe à pic, c'était une série diffusée dans les années 80 sur Antenne 2, dans l'émission Dimanche Martin, et puis sur la 5, thank you la 5.
Je suis l'homme qui tombe à pic, je suis l'homme qui vient de loin.
L'histoire d'un détective qui était cascadeur et qui enquêtait. Et c'était une chouette série avec Lee Majors où les enquêtes étaient musclées, les cascades dingues avec un nombre de voitures cassées incroyable et des sauts en avion et des sauts en hélicoptère, et j'aimais bien. Pour le film, le réalisateur a repris ce principe qui est même une promesse, la cascade. Donc dans The Fall Guy, croyez-moi, il y aura des coups de poing, des coups de pied, des sauts très périlleux, des chutes incroyables, des bagarres dans des bennes à ordures traînées par des camions en pleine course, des explosions, la cascade quoi, monsieur Hill.
Je suis juste un cascadeur.
Il valait 3 milliards.
On a de la drogue. Oui, major, oui.
Des méchants et un meurtre.
Voilà, il y a toute une trame narrative quand même, hein, comme on dit. Ça démarre sur le tournage d'un film où Cole Sievers, ils ont gardé le même nom dans la série, est cascadeur, et puis l'acteur principal disparaît, et on demande à l'homme que personne ne remarque, personne ne voit, les cascadeurs, d'aller discrètement enquêter. Il va s'apercevoir que la star du film avait des relations très louches, et musclés, et armés, avec des gens qu'il ne faut pas fréquenter, qui vont largement d'ailleurs commencer à courir après Cole Silver, d'où les voitures éclatées, les poursuites, les explosions, et un peu de cinéma parfois.
Quand même.
Génial ! Les cascadeurs, je déteste vos conneries de pouce en l'air.
Pouce en l'air, vous savez ce que c'est ça, quand ils sortent de la voiture avec la cascade. Pouce en l'air, voilà. Alors si vous n'avez aucune
référence, sont vivants, non
c'est pour dire que tout va bien. Si vous n'avez aucune référence avec la série, en tout cas des années 80, c'est une comédie action avec de l'humour, Ryan Gosling, et vous n'allez pas vous ennuyer. En revanche, si vous avez, comme moi, La ref, voilà. Ouais. Ce film est un supplice.
Ah non.
Mais rien ne va. Il y a pas la, en fait, il y a pas la saveur du vintage.
Ah,
et
mince.
C'est ça qui est terrible. Même pas un petit clin d'œil à la série. Rien dans la série. Ils bossaient en équipe. Il y avait même, alors, il y avait une cascadeuse blonde, californienne, souvent en maillot de pièce.
Oui. Ouais,
pour
bien,
les
cascades, ouais.
pour les cascades, bien sûr. Je la cherche encore. Moi, 40 ans après, je la cherche encore. Cole Seaver est vivait sur les sommets de Hollywood dans une maison en bois extraordinaire. Donc, question saveur. Il y a pas tout ça. On a effacé les refs. Ils ont gardé le titre. Pourquoi pas? Mais surtout, pourquoi?
Oui, alors, pourquoi? Quoi, justement, Olivier, je vous pose la question.
Alors, le réalisateur s'appelle David Leitch, est un ancien cascadeur lui-même. Avant de passer derrière la caméra, ce qu'il a réussi dans le film, quand même, il a réussi un truc. Bon, il y a une partie comédie romantique qui fonctionne, partie Ken et Barbie, personnage de Ryan Gosling et Emily Blunt, qui passent leur temps à se chicailler alors qu'ils ne rêvent que de se galocher, évidemment. Et puis, c'est vrai que le film rend hommage à ces hommes de l'ombre du cinéma, ces cascadeurs qui assurent le spectacle sans jamais n'avoir leur nom en haut de l'affiche. Alors, sur le tapis rouge, il y avait l'avant-première mardi soir à Los Angeles, Ryan Gosling a pointé du doigt un des gars en disant, ce gars-là, vous savez quoi, 8 fois on lui a mis le feu à ma place et ça c'est génial. Donc voilà.
On aurait pu avoir une petite apparition de l'image genre, ça aurait été pas mal quand même.
Mais je crois qu'il est plus de...
Si, ah, il a 85 ans et toujours en vie.
Le gars et l'homme voilà. qui chute, hein, c'est un ouais. film d'action à 125 millions de dollars quand même. On va aller voir ça au cinéma. Merci Olivier. Ben Kemoun, on se retrouve dans un instant après le journal permanent.
Europe 1.
Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h tous les jours avec Thomas Hill et avec votre invité. Ce matin, vous recevez l'écrivain Yann Moix pour ce roman Visa qui sort aujourd'hui aux éditions Grasset.
Yann, je,
Thomas, je voulais juste vous dire, rebondir sur l'actualité. Je trouve que ce qui se passe à Sciences Po est une honte pour la République. Je suis moi-même diplômé de Sciences Po, Paris. Et il y aura un avant et un après la démission intellectuelle du directeur de Sciences Po par intérim, qui est pour moi un homme inepte et qui fait preuve d'une immense lâcheté. C'est une école où on apprenait d'abord le courage intellectuel, le débat, et je considère qu'à l'heure actuelle, Sciences Po est née en 1872 et morte en 2024.
Et ben voilà, c'est dit. Merci Yann Moix. Et puis alors Yann, vous allez être content, on va se détendre un petit peu maintenant.
Alors je déteste les billets d'humour, vous,
savoir. Oui,
vous avez vraiment intérêt à être drôle.
Oh, wow.
Parce que autant les drames ratés, ça se voit pas, mais les comédies ratées, j'en ai fait une, ça se voit.
C'est très méchant ce que vous faites.
Mais
Yann.
Non, je la mets en confiance.
Elle,
vous avez juste intérêt
comment
à ce que ça soit drôle. Parce que, je vois déjà le déguisement, donc je vois déjà de quoi ça va parler.
Non, la personne que vous avez en face de vous,
c'est
attention.
C'est pas Obélix ?
Non, absolument pas. C'est, alors la moustache ne lui rend pas honneur, puisque c'est l'auteur d'Altérité et Transcendance, votre philosophe favori.
Je retire ce que je viens de dire.
Voilà. C'est Emmanuel Lévinas qui est avec nous
ouais,
ce matin.
Alors, ouais. Par contre, je crois qu'il y a erreur. Moi, c'est Emmanuel Lavinas.
Ah,
voilà.
Ah,
mais, comme mon nom l'indique, je suis philosophe, mais de comptoir.
Ah, d'accord. Il semblerait qu'on ait affaire à un petit quiproquo. Pardon.
Ça, j'en sais rien, je le connais pas, mais vous pourrez lui dire de ma part à votre quiproquo qui fait pas bien son boulot. Hein. Après, moi, je suis content d'être là parce que monsieur Yann Moix, moi, je vous adore. Et d'ailleurs,
aussi,
je pense
vous
que vous allez m'adorer aussi, exactement.
Ah, oui. Alors, pourquoi ça? Pourquoi il va vous adorer?
Monsieur Moix, il aime bien accompagner des gros déconneurs visiter des dictatures. Donc, moi, ce que je propose à Yann, c'est qu'on se prend une caisse de Beaujolais et on va passer un week-end chez ma belle-mère. Parce que je vous le dis, à côté d'elle, Kim Jong-un, c'est Mireille Mathieu et en Karl Lagerfeld. Hein, ça,
d'accord. Et vous avez déjà lu des livres de notre invité, Yann Moix?
J'ai essayé de lire Naissance, mais bon, 1142 pages, comment te dire? Moi, le truc le plus long que j'ai lu de ma vie, c'était ma liste de courses.
Ah, d'accord.
Je dois racheter du Sauvignon, de la soupée, puis des croutons. Faut pas que j'oublie non plus de racheter du PQ, du Moltonnet, pour pas irriter mon derrière.
C'est une rime riche.
Ouais.
Merci de vous être censuré en tout cas.
De rien. L'alcoolisme n'empêche pas la délicatesse.
Effectivement.
Mon pote Roger au PMU me dit toujours, il y a quand même une âme de poète qui se cache derrière tous tes ulcères.
Ah, voilà.
Et d'ailleurs, je suis pas venu les mains vides, j'ai écrit un petit poème pour Yann.
Ah, ça va
tu
le toucher,
t'appelles,
je sens.
Tu t'appelles Yann Moix et je t'aime bien. Tu es plus sympa que les taxes sur le vin. Yann Moix, j'aurais voulu t'envoyer un fax et bon, là je suis arrivé à court de rime en axe en fait. En plus, j'arrive plus à lire la suite, il y a une tache de homédoc sur le deuxième verset, putain.
Bon. C'était très beau en tout cas, Emmanuel. Mais c'est quand même un peu dommage, on était censé recevoir un grand penseur ce matin. Vous y connaissez pas du tout, vous, en philo vous
avez... on va dire que j'ai les bases, quoi. Par exemple, je sais que c'est Platon qui a inventé le premier cocktail, le gin platonique.
Très bon.
Voilà, et alors, juste après, on a Descartes qui a inventé le sien en revenant de Cuba, c'est le Morito Ergo Sum, comme chacun sait.
Bien
C'est la philosophie sous un autre angle, quoi. C'est intéressant.
Je vous ai dit, je suis philosophe de comptoir.
Ouais.
J'aime donner mon avis, débattre sur la fin de vie, ou les vélos à Paris, même si j'habite à Montargis. J'ai aussi une théorie sur le petit Grégory. Je te le dirai si t'es gentil et si tu me payes un autre chablis. Dire des conneries en buvant de la liqueur, relayer les idioties que je vois sur Twitter, payer votre tournée de Rome à ranger. J'adore déblatérer, mais toujours le coude levé.
Pas mal, bel hommage.
Ouais.
Hommage. Merci Emmanuel Lavinas. Merci, bravo surtout à Cécile Mars. Allez
merci
la voir
beaucoup.
En spectacle le 11 mai au Petit Palais des Glaces à Paris et ce soir et samedi à Nantes. Hein, c'est
oui,
ça
c'est ça, tout à fait. Je vous propose pas. Hein, du coup.
Non, mais vous avez tout à fait raison de défendre l'alcool parce qu'on est dans une société où on n'a plus le droit de faire quoi que ce soit. À la télévision, on n'a plus le droit de boire en direct. Ni même on peut plus fumer, on peut absolument rien faire. Quand vous regardez les émissions des années 70-80, c'est marrant parce que les gens fumaient, buvaient et c'est marrant. Ils ne faisaient pas des procès, quoi. Ils débattaient quand ils n'étaient pas d'accord. C'est quand même étrange, cette conjuration qui interdit à la fois le débat et l'alcool.
Alors, parce qu'on est en 2024, on est obligé quand même de dire que l'alcool est à consommer avec modération.
J'en ai rien à faire.
Il y a de
moi,
je
buvais du whisky, moi, pendant les émissions sur Europe 1 l'an dernier, il y a deux ans. Mais je trouve qu'on est prisonnier d'une chose, et je vais rajouter quelque chose qui va aggraver mon cas. Ah. C'est que je pense aussi qu'il y a des gens qui ont besoin de boire. Et s'ils ont envie de se détruire, ils ont
parce
le droit de...
Non mais, vous voulez dire
si quelqu'un veut se suicider lentement, parce qu'il a, il n'a pas les moyens de se suicider violemment, d'un coup, eh bien, c'est la liberté humaine fait qu'on a le droit de se droguer, on a le droit de boire, on a le droit de se détruire avec l'alcool.
On a le droit de lui tendre la main aussi.
On a bien sûr.
Et pour d'autres, c'est une maladie aussi, c'est pas forcément un choix.
Arrêtez.
Non mais
vous êtes là, vous sentez obligé, mais c'est pas ça que je veux dire. Ça, on le sait que l'alcool est mauvais pour la santé. Je dis que il y a un droit à la destruction. L'être humain est malheureux, le bonheur n'existe pas forcément, et on doit respecter aussi ceux qui ont choisi de se détruire par la drogue et l'alcool. Et les mains tendues, elles existent au niveau institutionnel, au niveau journalistique, comme vous faites très bien. Et c'est normal d'aider les alcooliques, etc. Mais je pense là aujourd'hui à la marge de gens qui en ont marre, qu'on leur présente sans cesse de l'aide. On a aussi un droit à la destruction lente. Et c'est pour ça que votre chronique, je trouve, est très intéressante parce que mais c'est vrai, il y a beaucoup de philosophes qui se sont détruits par l'alcool et par la drogue.
Je préfère qu'elle soit drôle, mais
il y a beaucoup de philosophes.
Je vais enlever cette moustache parce que cette discussion est très sérieuse.
Non mais il y a beaucoup de philosophes et de penseurs et de grands écrivains qui sont détruits par parce que c'était un combustible. C'est aussi intéressant de voir comment on a la manière qu'on a de se détruire. On a heureusement des moyens de s'évader. Ça, c'est une chose. Et on a aussi des moyens de se détruire. Je ne fais pas la publicité de ça. Je ne bois quasiment jamais d'alcool. Je ne me suis jamais drogué. Je pense aujourd'hui à ceux dont on ne parle jamais, qui ont décidé de se libérer du poids sociétal en buvant. C'est tout. C'est pas pour faire le malin. Je pense qu'il faut aussi en parler de ces gens-là. De la liberté.
Tout à fait. On les embrasse.
On va jouer maintenant, parce que c'est un autre moyen de s'évader. Et on va jouer aux trois ou rien. Trois bonnes réponses, ou sinon vous ne gagnez rien.
Et ce matin, vous jouez pour tenter de remporter deux places pour assister au spectacle de votre choix grâce au site ticketac.com. Parmi un catalogue de plus de 1500 spectacles, des pièces, des spectacles de danse, des one-man shows, des expos. Vous allez trouver tout cela sur ticketac.com.
Et on va accueillir Catherine pour gagner tout ça. Bonjour Catherine.
Bonjour à tous.
Il joue avec son téléphone, visiblement.
Bonjour Catherine.
Bonjour Catherine. Vous habitez où ?
J'habite à Poissy, dans les Yvelines.
Ah, comment appelle-t-on les... Tiens, très bonne question. Comment appelle-t-on les habitants de Poissy ? Est-ce que quelqu'un le sait autour de la table ?
Les Poissyistes, c'était mieux avant.
C'était mieux.
Les Poissyistes.
Les
compatriotes habitaient là-bas.
Non, c'est pas ça. C'est plus compliqué que ça, je crois.
Les Poissyistes.
Ça s'appelle les Pissiassiers et Pissiassiaises.
Voilà, c'est ça. C'est un truc à l'affreux. Vous êtes avec, un enfant, peut-être ?
Ah oui.
Oui, tout à fait, oui.
Bon, très bien, eh ben, on la salue. Alors, vous allez pouvoir jouer quand même, parce que j'ai trois extraits sonores pour vous, Catherine. Vous allez entendre à la suite un chanteur, un extrait de film et un générique télé. Écoutez bien.
C'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur.
Ça te plaît, ça ?
Je le dirai à mon père.
Et alors, qu'est-ce que tu veux, ça me fout que tu dis à ton père ? Qui c'est ton père, d'abord ?
Mon père, c'est le maire, vous allez voir.
Le maire ? Bon, allez, va t'asseoir, va manger.
Et le barrage à insectes, 9,99€.
Le jus des 2000 qui vous permet d'éliminer les graisses rapidement.
L'artichoc.
Catherine, je vous écoute. Qu'est-ce que vous avez reconnu, Catherine?
Alors, moi, j'ai reconnu Kali.
Oui. Mmh.
Ouais, très bien. Ensuite, le film.
Pour le film, il me semble que c'est un vieux film. C'est Maître d'école, peut-être.
Joli, avec Coluche. Bravo. Et alors,
voilà,
le petit générique télé.
Alors, la pub, ben, c'est un vieux truc aussi, mais alors là...
C'est pas une pub, c'est une émission de
télé.
C'est
une émission, c'est le matin, alors ça n'existe...
Ah, on aurait dit une pub,
si,
Téléachat.
Ouais, très loin.
Mais comment ça s'appelle le téléachat sur TF1? Sur TF1, le nom du téléachat sur TF1. C'est le télé...
Comment tu l'appelles?
Vous partez faire...
Télé...
Un tour de...
Télé-shopping.
Télé-shopping, yes. Bah voilà Catherine, c'est gagné, bravo.
Bravo Catherine.
Ah, génial, merci.
Et une
beaucoup.
Bouteille de Saint-Émilion.
Vous remportez. Ah oui, ça joue bien.
Voilà. C'est mieux pour frapper les enfants, ça aide.
Oh, Yann.
Ouais, c'est pas ça, on culpabilise moins.
Exact.
C'est quel orage, toi? C'est fou, ça.
Oui, c'est bien qu'on leur donne de la marge.
Mais non, mais non.
Ils l'apprennent.
Vous remportez deux places pour assister au spectacle de votre choix que vous allez pouvoir choisir sur le site ticketapp.com. Et vu que vous êtes près de Paris, il y a plein de spectacles, d'humour, des pièces de théâtre, des concerts, il y a plein de choses à découvrir.
Allez, on se retrouve dans un instant avec Héloïse Gouard. On va parler série. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Yann Moix pour son dernier roman, Visa.
Visa qui se passe chez les Nord-Coréens, mais on va partir chez les voisins des Coréens et ce sont pas vraiment leurs copains, hein, je crois. En tout cas, c'est ce que vous nous expliquez dans le livre, puisqu'Héloïse Gouard nous emmène au Japon et plus précisément
très grand pays.
Tokyo, avec une série qui s'y déroule, c'est ça?
Oui, Yann, vous n'aimez pas les billets d'humour ni les séries, vous êtes au bon endroit ici. On m'avait dit que vous n'aimiez pas beaucoup les séries.
Non, j'aime les séries, mais toujours les mêmes. Je regarde toujours les mêmes.
Vous en aimez trois, oui.
Quatre. Bon.
4, ok.
Dont Columbo. Donc surtout on va dire Columbo.
Ah oui, déjà ça. Vraiment les séries récentes.
Ouais, les dernières. Ouais.
Bon alors vous entendez un générique en fond. Sur ce générique, des tatouages colorés s'animent sur un corps de Yakuza. Est-ce que vous reconnaissez ce Gomorrah sauce nippon?
Tokyo Vice, non, c'est ça?
C'est Tokyo Vice. Une série hypnotique qui nous montre un Japon comme on l'a jamais vu. Et la saison 2 qui vient de sortir est presque encore mieux que la première. Et ça, c'est rarissime pour
Il faut expliquer, hein, pour ceux qui connaîtraient pas, qu'est-ce que c'est Tokyo Vice?
Alors, avant d'être une série géniale, Tokyo Vice, c'est d'abord un livre-enquête de l'américain Jake Adelstein qui raconte sa propre expérience de journaliste au Japon. Ce livre lui a valu, comme Roberto Saviano pour Gomorrah, une protection policière. Autant vous dire que cette histoire valait bien une série de deux saisons. D'ailleurs, initialement, ce livre devait même être adapté en film avec Daniel Radcliffe qui, je l'ignorais, parle couramment le japonais.
Ah oui, mais alors voilà. Qu'est-ce qu'il a vécu de si fou en tant que journaliste à Tokyo?
En 1990, Jake a 24 ans, il parvient à intégrer le service police-justice du plus grand quotidien japonais, le Meisho Shimbun. Et c'est pas évident hein, pour un étranger de faire sa place dans une rédaction japonaise qui est, il faut le dire, assez raciste. Mais Jake tient bon parce qu'il est là pour une bonne raison.
Abandonner et rentrer chez moi n'est pas envisageable. Je veux découvrir le véritable Tokyo, ce qui se cache sous la surface.
Ouais, il va bien voir ce qui se cache sous la surface. C'est en enquêtant sur plusieurs suicides étranges que Jake rencontre ses premiers Yakuza, des voyous qui ne sont pas connus pour leur douceur.
Ça fait quoi d'être un Yakuza? Je pourrais écrire sur ce sujet.
Voilà, là comme ça on dirait pas, mais Jake va bien devenir l'interlocuteur des Yakuza qui acceptent de leur ouvrir leurs portes pour qu'il écrive des articles, tout ça est vrai. Hein. C'est un jeu très dangereux qui commence pour ce journaliste parce qu'il continue en même temps d'informer la police sur ce qu'il voit.
Les reporters ne sont pas très appréciés par ici, surtout s'ils font du bon travail.
Donc les bons reporters ont beaucoup d'ennemis.
Un homme sans ennemis n'est pas un homme du tout.
Si vous avez vu la saison 1 et que vous vous souvenez de la fin explosive, sachez que la spirale de violence n'est pas prête de s'arrêter. Hein. Jake s'embourbe jusqu'au cou dans le monde impitoyable des Yakuza. J'ai trouvé qu'il y avait encore plus de rythme en fait que dans la saison 1.
Et alors visuellement, ça donne quoi cette série?
Bah c'est canon, la réalisation immersive de ce polar fonctionne très bien avec la peur et le danger qui collent à la peau des personnages. L'image est sombre mais très puissante et surtout réaliste. Ce réalisme tient au fait que cette production américaine est tournée en japonais la plupart du temps. Il y a beaucoup d'acteurs nippons, mais aussi des acteurs américains comme Ansel Elgort, qui ont visiblement pris pas mal de cours. Je précise que Jake Adelstein, qui adore l'adaptation, dit que le niveau de réalisme est fou. Les moindres détails sont pensés, ça va jusqu'au dossier en arrière-plan du poste de police, qui ont tous été travaillés pour ceux qui lisent le japonais, même à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est, voilà. Et tout ça, ça mérite d'être souligné, parce que c'est rare, peut-être surtout pour les Américains, de faire l'effort de coller le plus possible à la culture de pays dont on parle. C'est ce qui fait le charme des paysans de cette série originale très réussie que
Tokyo
j'adore.
Tokyo Vice, les deux saisons sont à retrouver d'ailleurs sur MyCanal. Merci beaucoup Héloïse Gouard.
Elle a un peu de musique sur Europe 1 dans Culture Média avec un titre que tout le monde connaît, Mylène Farmer, Désenchantée, jusque-là tout va bien. L'histoire de ce titre, après sa première tournée, elle fait comme une sorte de dépression, elle se met à lire, elle choisit Cioran et grâce à ses lectures, elle écrit ce texte, Désenchanté, sorti en 1991 sur Europe 1. Vous écoutez Culture Média. Le classique de Mylène Farmer, Désenchanté sur Europe 1 dans Culture Média.
Allez, dans un instant, on va se retrouver avec Yann Moix pour les toutes dernières minutes de Culture Média.
Et puis, vous le savez, tous les jours de 16h à 18h, Sophie Davant vous invite à participer dans la bonne humeur au grand jeu d'Europe 1. Ça s'appelle Sophie et les copains avec une émission spéciale cinéma aujourd'hui. Vous allez pouvoir être aidé du réalisateur Jean-Marie Poiré, réalisateur de Papy fait de la résistance, du Père Noël est une ordure ou encore des visiteurs.
Oh, des champignons, des champignons de Villas à la santé du roi Louis VI le Grand. Bonne santé les deux.
Pour jouer, vous vous inscrivez par SMS, vous envoyez Sophie 739-21 pour tenter de décrocher le jackpot qui s'élève à 1400 euros aujourd'hui, ça vaut le coup. 75 centimes plus coût du SMS, 3 SMS pour s'inscrire. Et en plus, cette semaine, vous pouvez tenter de gagner un magnifique séjour d'une semaine pour deux en Slovénie. À tout de suite sur
Europe 1.
et sur Europe 1. Ce sont déjà les dernières minutes de Culture Média avec Thomas Hill et votre invité Thomas, le romancier Yann Moix.
Pour ce livre, Visa et ce dialogue un peu surréaliste avec Monsieur Ri de la délégation de Corée du Nord à Paris, qui a toujours quelque chose à redire sur vos formulations très françaises, hein, comme « ce n'est pas faux », il faudrait dire « c'est vrai », « vous n'avez pas tort », il faudrait dire « vous avez raison ». Là, c'est votre critique de la langue française ou c'est la sienne ?
Ah non, ils adorent La Fontaine parce qu'il y a des morales à la fin de La Fontaine. Ouais. Rien ne sert de courir, il faut
tirer un point.
Alors ça, c'est des orgasmes intellectuels pour eux. Ils aiment la langue précise. Si vous dites c'est pas de refus, et ben pourquoi vous dites pas oui ? Comprennent pas quoi. Il faut voir, je comprends pas, c'est oui ou c'est non. Il faut toujours sortir de l'ambiguïté de manière lexicale. Ouais. Et le paradoxe, c'est que l'ambiguïté, elle est perpétuellement là dans les situations, mais jamais dans les phrases. Donc, il faut interpréter des phrases précises qui sont greffées sur des événements flous. C'est très étrange.
Et ils n'ont pas l'air de connaître le second degré, ou alors c'est pas le même que
c'est
le
pas
nôtre.
Le même. C'est pas le même.
Ouais. Parce que l'humour, ça passe pas du tout, quoi.
Par exemple, c'est pas le nôtre. Mm-hmm. C'est-à-dire que ils m'ont demandé, vous aimez bien le grand leader Danton ? Je dis oui, j'aime beaucoup Danton, Robespierre. Si vous aimiez bien le grand leader Danton, pourquoi vous accepteriez que les pigeons fiantent sur sa tête, sur les statues ? Donc ils ne comprennent pas, par exemple, qu'on n'entretienne pas les statues.
Pas
parce qu'en Corée du Nord, si vous n'époustez pas tous les jours les portraits de Kim Il-sung ou de Kim Jong-il, c'est le camp de concentration à vie. Et là-bas, il faut savoir aussi que la culpabilité se transmet de père en fils. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en prison de toute éternité, qui naissent en prison, qui font des enfants en prison, qui vivent en prison depuis toujours, parce qu'en 1962, quelqu'un dans leur famille a fait tomber un portrait de Kim Il-sung ou de Kim Jong-un. Et donc, ensuite, vous allez dans un camp et vous ne sortez même pas du camp, c'est-à-dire que vous n'êtes même plus en Corée du Nord, vous êtes dans un camp à l'intérieur de la Corée du Nord.
Ouais. Et alors, je me suis demandé aussi, Yann Moix, si les critiques formulées envers notre pays étaient celles de M. Ri ou les vôtres, parce que vous écrivez que les Français ne respectent rien, les Français se servent de la France mais ne la servent pas, et quand ils ont fini de s'en servir, ils la jettent. Il dit aussi un petit peu plus loin, vous souhaitez la bienvenue à trop de monde, votre pays est une poubelle, vous trouvez tout le monde merveilleux, vous êtes des intégristes de la tolérance.
Alors ça, c'est fascinant, parce que non seulement c'est vrai, mais c'est un discours qu'on entend également en Corée du Sud. Il n'y a pas besoin d'aller en Corée du Nord. En Corée du Sud, j'ai rencontré un chirurgien esthétique qui voulait me refaire les cernes, mais moi j'adore mes cernes. Il me dit, je comprends pas, vous accueillez trop d'étrangers. Je dis, mais pourquoi c'est un problème pour vous ? Il dit, mais nous, si je joue du bistouri, c'est parce que je change les gens, ça les rend différents. Et donc comme ça, notre pays sécrète ses propres étrangers.
Ouais. Wow. Ah oui, d'accord.
Ça va très très loin.
Ah,
ils
sont
pour immigration. Zéro. Si par exemple vous voulez devenir coréen du Sud, c'est possible, il faut monter une entreprise là-bas, vous avez 3 ans. Si au bout de 3 ans le chiffre d'affaires n'est pas celui qui était espéré par les autorités, vous rentrez en France. Mmh. Immigration, zéro. Et donc ça, c'est un discours qui n'est pas simplement nord-coréen, mais qui est coréen. Je termine juste, Thomas, sur une phrase. Il m'a dit un jour, vous considérez qu'il y a des races supérieures et des races inférieures. Nous considérons simplement que toutes les races se valent, mais la nôtre ne veut pas se mélanger.
C'est dans Visa, ce livre paraître chez Grasset, apparaître aujourd'hui même. Yann Moix, merci d'être venu.
Merci de votre invitation, cher Thomas, et merci à vous tous.
D'Europe 1, et on va passer le micro à Pascal Pro, qui était certainement en train de nous écouter. Bonjour Pascal.
Mais oui, mais vous avez de la chance.
On a de la chance d'avoir Yann Moix.
Ben oui, parce que moi, il me dit même plus bonjour.
Mais Pascal, j'espère que vous allez m'inviter pour Visa.
Il ne vient même plus sur notre plateau. Jamais un petit coup de fil, jamais un texto.
Pas bon, on parlait de Monterland régulièrement au téléphone.
Je suis d'accord avec vous.
Le dimanche matin.
Vous êtes fâché, vous êtes fâché.
Mais
non, je l'aime.
J'adore Pascal.
Mais moi, j'adore qu'il vienne sur notre plateau, mais je n'avais plus de signe de vie. Je me disais, tiens, il a demandé l'asile politique en Corée du Nord.
C'est que j'en ai marre de passer mes journées dans les tribunaux, Pascal. À chaque fois, je dis un truc à la radio, à la télé, je reçois une lettre dans la semaine.
Dis-moi, parfois, on raconte des anecdotes et on exagère un peu. L'anecdote du type en Corée du Nord qui a fait tomber un cadre en 1962 et toute la famille est en tôle 50 ans plus tard. C'est pas vrai quand même.
C'est vrai, là-bas la culpabilité se transmet par le sang. La faute est transmise par le sang. Comme dans la civilisation judéo-chrétienne jusqu'au livre d'Ézéchiel. C'est Ézéchiel qui a décidé qu'en fait la faute du père ne retombait pas sur le fils, mais chez eux, la faute du père retombe sur le fils des générations et des générations plus tard. C'est en fait, j'en parlerai quand vous m'inviterez Pascal, c'est un système de caste, mais c'est un système de caste hyper hiérarchisé et vous êtes catalogué citoyen numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Si quelqu'un a fait une bêtise, vous êtes citoyen numéro 10.
Dans ma famille, on n'est que des gens purs, donc tout va bien. Il est 10h59 et nous allons évidemment parler de l'actualité aujourd'hui et notamment des confidences de Philippe Candeloro. À tout de suite. Très bonne émission.
Bonne émission.